Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, vous le connaissez. On fait le tour de l'actualité de la semaine avec les moments forts des différentes radios juives partenaires à Paris, Marseille et Jérusalem. Et nous allons bien évidemment consacrer cette semaine des rédactions à la guerre en Ukraine, qui en est donc à son 8e jour. Avec vous, Sandrine Seban, nous évoquerons la mobilisation des intellectuels et des politiques. C'était mardi soir au Théâtre Antoine.
Bonjour Rudy, oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde au Théâtre Antoine. Cette mobilisation des intellectuels, des politiques, des artistes, à l'initiative de Bernard-Henri Lévy du magazine La Règle du Jeu, auquel le FSJU et RCJ se sont associés.
Et on parlera de la mobilisation des Français, mais aussi de la communauté juive avec vous, Isabelle Piras.
Bonjour Rudy, bonjour à tous. Oui, une forte mobilisation à Marseille, hein, comme partout en France. Et à Marseille, ce sont les mouvements de jeunesse qui se sont alliés au FSJU pour organiser une collecte. Et nous écouterons Benjamin Sibon, coordinateur sud-est pour le Fonds social juif unifié.
Et on parlera avec vous, Emmanuel Hadda, à Jérusalem, de la prudence israélienne dans ce conflit armé. Israël qui marche sur des œufs.
Absolument, la position d'Israël est très très délicate depuis le début de ce conflit et on essayera de comprendre un petit peu comment ça se joue.
Et donc on débute avec vous, Sandrine Seban, cette mobilisation, c'était donc mardi soir au Théâtre Antoine avec de très très nombreux intervenants, mais aussi des témoignages.
Oui, tout à fait, c'était l'initiative de Bernard-Henri Lévy et de La Règle du Jeu. C'était quasiment trois heures de témoignages sur scène, de prise de parole des politiques. Et vous étiez, Rudy, avec Eglantine Delalleux, avec également Maître Ariel Goldman, président du FSJU, et Richard Audier, son directeur général, puisque... Dès l'annonce de ce meeting, le FSJU et notre radio RCJ a tenu évidemment à appeler à la mobilisation. Je crois que le Théâtre Antoine était bondé absolument et que effectivement certains pourront se dire mais à quoi ça sert ? Ça sert à témoigner, ça sert à se sentir ensemble et Dieu sait si les Ukrainiens aujourd'hui ont besoin de sentir la communauté internationale autour d'eux et agir. Alors on parlera de l'aide humanitaire aussi juste après. Mais je vous propose d'écouter le témoignage bouleversant d'Irina Shevchenko et ensuite Jean-Marc Dumonté. Jean-Marc Dumonté qu'on connaît, qui est le directeur de théâtre, l'homme de culture et qui est lui aussi toujours à la pointe des combats humanitaires.
Ma sœur, vous savez, ma sœur aujourd'hui, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu sais, Ina, partout dans l'Europe, printemps arrive, mais en Ukraine, l'hiver commence. Je sais que l'hiver se termine, un jour va terminer aussi. Et printemps arrivera en Europe, en Ukraine aussi. Je sais qu'un jour, la guerre va... va être terminé aussi. Je sais aussi qu'un jour, les politiciens s'en serreront encore la main. Mais je sais aussi que les parents vont souffrir toujours d'avoir perdu leurs enfants. Et je sais que les enfants vont souffrir, vont pleurer toujours leurs parents.
Il y avait évidemment beaucoup de monde, beaucoup de témoignages de solidarité, une vraie communion. Et puis au fond, l'idée de se dire que c'était aussi retransmis en Ukraine et que je pense que ça peut faire chaud au cœur aux Ukrainiens qui vivent des moments terribles en ce moment, de sentir qu'ils sont moins seuls et que toute la communauté internationale les accompagne, est avec eux, est à leur côté, à leur façon, et que leur combat pour la liberté, ils vont le gagner parce que la liberté, c'est plus fort que tout et que de toutes les façons, quelles que soient les vicissitudes du moment, quelle que soit la tragédie qu'ils vivent, ils triompheront et que Poutine a déjà perdu. La démocratie, la liberté, ça se défend, ça se construit chaque jour. Et il faut arrêter avec cette fascination morbide. Il faut arrêter de permanence dénigrer notre système politique, dénigrer notre démocratie, dénigrer nos libertés. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Ne soyons pas repus et apprécions notre liberté. Et Sylvain Faure le disait très bien à la fin de la soirée, le peuple ukrainien, l'Ukraine nous a réveillés. Elle nous a réveillés, elle nous fait prendre conscience de la chance incroyable qu'on a d'être dans un pays démocratique. Et la moindre des choses, quand on a ce privilège absolu dans un pays de liberté, c'est d'essayer que les autres en profitent également.
Voilà, Jean-Marc Dumonté, qui est également à l'initiative de ce rassemblement. Ce que je voulais dire aussi, Rudy, c'est que dans une guerre, finalement, on se rend compte que tout le monde doit être à sa place. C'est-à-dire que ceux qui sont sur le front, les soldats ukrainiens, font leur travail héroïquement pour défendre leur famille, défendre leur peuple, défendre leur ville. Et puis, nous, parfois, on dit on se sent impuissant. Non, on n'est pas impuissant. On peut aller au meeting de soutien, on peut retransmettre sur les réseaux sociaux les témoignages, les informations. Le monde de la culture s'est mobilisé, le monde des sportifs aussi, avec différentes prises de parole et différentes interdictions concernant les Russes. Bref, tout le monde peut agir à son niveau, il n'y a pas besoin d'être chef de l'État pour ça. Et nous, notre niveau, évidemment, à RCJ, c'est vous informer et passer ces témoignages extrêmement émouvants. Et puis, c'est aussi la mobilisation humanitaire et le Front social Juif Unifié est à la pointe. C'est lui qui, comme depuis 70 ans, coordonne toutes les actions des associations juives en France grâce à son réseau d'ONG en Europe. Parfois, on veut aider, mais on ne sait pas trop comment aider. Le Front social, fort de son expérience et de ce réseau-là, le fait, coordonne avec les EI, avec l'UEJF, avec le CASIP, avec beaucoup d'autres. Il y a des camions qui sont partis déjà, il y en a d'autres qui vont partir tous les jours, il y a des réfugiés qui arrivent aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont arriver dans les jours à venir. Pour tout cela, il va falloir des dons, il va falloir beaucoup de dons. Je sais que vous connaissez le site du FSJU, il y a également sur ce site toute l'aide que vous pouvez apporter, matériel, en vêtements, en médicaments, en poussettes. Il y a beaucoup d'enfants également qui vont arriver, des jouets, des nounours, vous allez retrouver sur le site et sur les différents réseaux sociaux tout ce que vous pouvez amener et les adresses où vous pouvez les amener. Voilà, chacun a son rôle à jouer et chacun peut être important et faire partie de cette grande chaîne de solidarité.
Emmanuel Ada.
Tout d'abord, je tiens à dire que je suis émerveillée de voir la solidarité en action. C'est quelque chose qui est toujours très bouleversant. En Israël, la situation est complètement différente parce que nous avons 1 million de Russes juifs qui habitent en Israël. Et nous avons parmi eux, avec eux également, des Ukrainiens. Donc, on vit au sein même de notre population le conflit. Les discussions aux terrasses de café, dans les foyers, les copains, au boulot, etc. On ne parle que de ça, bien évidemment. Et on a tous un ami russe et on a tous un ami ukrainien. Donc, si vous voulez, le positionnement de l'israélien n'est pas du tout le même que celui du français. Et puis, le positionnement d'Israël n'est pas du tout le même que celui de la France, puisque Israël a des intérêts très importants à défendre. Autant que la France, mais des intérêts sécuritaires très, très, très précieux. Et nos relations avec la Russie, avec Poutine, jusqu'au règne de Benjamin Netanyahou, ont toujours été excellentes. Et je rappelle que la Russie nous a permis d'agir en Syrie. Et
Emmanuel, juste avant de parler de géopolitique, j'aimerais qu'on continue de parler de solidarité. Israël amène une aide, évidemment.
Alors Israël a répondu tout de suite à l'aide humanitaire.
On les a vus, les sauveteurs israéliens, à la télé également.
Les sauveteurs israéliens sont partis, les soldats. On a eu plusieurs associations que vous connaissez, Hatzala, Sauveteurs sans frontières, ils sont tous partis là-bas. Et on a eu beaucoup d'Israéliens eux-mêmes qui sont partis pour sauver leur famille, leurs copains, la famille de leurs copains. Moi, j'ai des amis qui sont partis également pour aller chercher des réfugiés. Par contre, on a eu un petit problème, effectivement, sur l'accueil des réfugiés. Si vous souhaitez qu'on en parle, je peux vous expliquer un petit peu mieux la situation. Israël a donc accueilli quelques réfugiés ukrainiens et parmi eux, certains n'étaient pas juifs. Et donc, ils n'ont pas obtenu le statut de réfugié en Israël. Pourquoi ? Parce que pour être réfugié, il ne faut avoir aucun autre pays d'accueil possible, et ce n'est pas le cas des Ukrainiens, ou alors il faut être juif pour obtenir la nationalité israélienne. Donc, Israël a voulu renvoyer un certain nombre de réfugiés ukrainiens. Il y a eu des pressions sur le gouvernement et on a fini par céder en demandant que chaque réfugié verse une caution financière et s'engage à repartir dès la fin du conflit, à quitter le pays. Donc, ça a été repris dans la presse française. Donc, je tenais à expliquer un petit peu pourquoi et comment, quel est le statut de réfugié en Israël. Hein. On n'a jamais accueilli de réfugiés comme ça en Israël. Et pour obtenir la citoyenneté israélienne, eh bien, il y a des règles. Donc, c'était important de le dire aussi.
Merci, Emmanuel. Donc, mobilisation également à Marseille avec cette jeune génération, Isabelle Piras, qui est également extrêmement touchée par ce qui se passe en Ukraine et qui veut agir.
Alors oui, bien sûr, hein, l'aide s'organise à Marseille, alors déjà avec une collecte hein, à l'hôtel de ville, donc organisée par la municipalité. La coordination se fait là par les services municipaux, le bataillon des marins-pompiers de Marseille ou encore la PHM, hein, donc c'est vraiment une mobilisation générale. Alors c'est une semaine particulière à Marseille puisque nous accueillons vendredi le sommet des villes européennes. Et, oui. Et d'ailleurs, Roberta Metsola sera présente hein, demain matin à la région sud. Alors nous aussi, hein, l'accueil des Ukrainiens commence. 130 hein, devraient arriver aujourd'hui à la gare Saint-Charles. Et dans ce contexte, le Fonds social et les mouvements de jeunesse s'organisent afin de collecter des produits de première nécessité. Je vous propose qu'on écoute tout de suite Benjamin Sibon, donc coordinateur sud-est du Fonds social.
Le Fonds social juif unifié aujourd'hui apporte une solution à cette urgence, à cette crise que vivent aujourd'hui les Ukrainiens. Bien évidemment, une collecte est organisée sur Internet. Des fonds sont collectés sur don.fsju.org/réfugiés. Ici, à Marseille, le Fonds social juif unifié est solidaire. On essaye en tout cas d'apporter de vraies solutions et de le faire de manière unifiée en fédérant les mouvements de jeunesse qui sont solidaires également de cette collecte-là. On parle des EI, du Dror, du Bnei Akiva, du Dej et aussi bien évidemment de l'association étudiante l'UEJF. L'objectif est de collecter des produits de première nécessité que nous allons collecter et généraliser directement au local du Dror, du Rabbonim Dror, ici à Marseille, au 32 rue Saint-Suffren. Aujourd'hui, les Marseillais peuvent apporter des denrées alimentaires non périssables, des médicaments, du nécessaire d'hygiène, tout ce qui permettra finalement à cette population de les soutenir, de les aider et encore une fois de trouver des solutions les plus rapides et les plus urgentes pour répondre à ce besoin-là. Nous organiserons avec la ville de Marseille et notamment avec Benoît Payan une redistribution de toutes les denrées que nous aurons collectées à la ville de Marseille pour que celles-ci soient redistribuées au mieux aux populations qui en ont besoin.
Donc c'est une collecte hein, bien évidemment qui vient compléter la campagne de dons hein, lancée donc vous l'évoquiez Sandrine par le Fonds social que j'ai unifié hein, pour venir en aide donc aux Juifs ukrainiens. Alors c'est vrai que si j'ai été bouleversée hein, par ce témoignage que nous avons écouté et nous avons nous été en contact avec le rabbin du Beit Rabat de la ville d'Ouman hein, au sud de Kiev à peu près 3 heures de route de la capitale. Là aussi c'est un témoignage extrêmement difficile à écouter, bouleversant. Il était inquiet pour sa communauté, il nous a parlé de la communauté juive à Kiev, dans une ville donc assiégée, et c'était vraiment un appel à l'aide, un appel à la solidarité. Et c'est vrai que quand on voit que tout ça s'organise, en effet, c'est très émouvant et on comprend que chacun, en effet, a un rôle à jouer dans cette crise.
Vous allez retrouver sur les réseaux, effectivement, sur la page du FSJU, vous allez retrouver en fait les adresses également sur Paris pour déposer les vêtements et autres. Et comme je pense qu'on va terminer dans quelques instants, Rudy, une anecdote peut-être un tout petit peu plus souriante que Emmanuel a peut-être vu passer aussi dans une ville d'Ukraine. On parlait des sauveteurs israéliens qui sont sur place. Il y a un étudiant gazaoui qui était en Ukraine et qui cherchait à pouvoir rentrer à Gaza. Vous l'avez vu aussi. Il ne savait pas comment rentrer et il a vu les sauveteurs israéliens avec le drapeau d'Israël. Il a reconnu sur une voiture. Il a été les voir en lui disant « ramenez-moi ». Et voilà, ils vont le ramener. Donc, c'est un tout petit peu plus souriant. Voilà, c'est un médecin palestinien aussi qui était en Ukraine et que donc les sauveteurs israéliens vont ramener. C'est une toute petite lueur dans ce monde bien, bien sombre.
Emmanuel, il nous reste quelques minutes justement pour parler de la situation géopolitique et à cette prudence hein, d'Israël qui ne sait pas trop sur quel pied danser entre son engagement moral et puis ses engagements stratégiques, notamment en Syrie. Comment ménager les deux côtés, mais aussi être un médiateur. Hein. On sait que Naftali Bennett parle aux deux camps de manière très régulière.
Tout à fait, Israël a, juste en quelques secondes pour expliquer à nos auditeurs, Israël a une position très très particulière, mais en tout cas utilise le fait qu'on ait un premier ministre et un ministre des Affaires étrangères qui travaillent main dans la main. Donc Naftali Bennett dit certaines choses et fait certaines choses, et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid en fait d'autres, ce qui permet à Israël de ménager la chèvre et le chou, parce que l'on doit ménager nos relations avec Poutine et on doit ménager nos relations avec l'Ukraine qui est également un pays. Donc on marche sur des œufs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Rudy. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Alors c'est vrai que le président ukrainien a appelé les juifs du monde entier à réagir, a appelé Israël à venir aider plus, mais Israël pour le moment, à part l'aspect humanitaire et comme vous l'avez expliqué, l'ouverture la possibilité de négocier, en tout cas d'être un médiateur, Israël ne veut pas faire plus que ça aujourd'hui pour pouvoir justement continuer à maintenir de bonnes relations avec la Russie de Poutine.
Ouais, ça c'est les complications de la politique.
C'est compliqué la géopolitique, mais enfin parfois c'est aussi simple qu'un agresseur et un agressé et une population ukrainienne sous les bombes et une population russe dont on espère qu'elle pourrait arriver à se débarrasser d'un dictateur à sa tête, mais on sait à quel point c'est compliqué.
On parle de 8000 arrestations Russie pour celles et ceux qui ont manifesté. On a vu des enfants qui ont été mis en prison pour quelques heures.
Donc on pense aussi évidemment à eux et voilà.
Bon, bah voilà, ça, on terminera cette semaine des rédactions sur cette pensée et puis cette note d'espoir, effectivement, de ce conflit qui malheureusement risque de durer. Merci à vous, Isabelle Pierras à Marseille pour Radio J et Marseille. Et merci à vous, Emmanuel Ada à Jérusalem. Je vous retrouve demain matin pour votre correspondance.
Et puis
merci à vous, Sandrine Semaine, directrice
Rudy.
De l'antenne de la radio RCJ, que l'on connaît bien aussi. Et dans un instant, ce sera vos chroniques, le droit avec Maria Felous et les sciences humaines avec Perrine Simon-Naoum.